VOA Afrique, les infos. À Washington.
15h à Washington, 19h en temps universel. Dans 5 minutes, votre magazine Le Monde au féminin avec Nathalie Barge. Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Et on démarre par le Zimbabwe, où le gouvernement a mis en garde contre toute annonce de résultats en dehors de ceux de la commission électorale. Mais cela n'a pas empêché le mouvement pour le changement démocratique d'affirmer que son chef, Chamisa Nelson, a remporté la présidentielle dès le premier tour. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous avons reçu les résultats de nos agents. Les résultats montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que nous avons gagné les élections et que le prochain président du Zimbabwe est Nelson Chamisa, a déclaré un haut responsable du parti, Tendai Biti. Lors d'une conférence de presse au siège du parti, il a ajouté que le MDC a réalisé l'impossible devant quelques partisans euphoriques. Le MDC dit cependant être inquiet, lui qui n'a cessé de dénoncer, avant le scrutin, le manque de transparence et la partialité de la commission électorale.
Au Mali, les résultats de la présidentielle de dimanche sont attendus d'ici vendredi et pendant ce temps, certains candidats tentent de convaincre l'opinion publique qu'ils seraient bel et bien au rendez-vous d'un second tour qui, s'il a lieu, se tiendrait le 12 août. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté un nouveau code électoral qui consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote. Le texte a été dénoncé par l'opposition. République du Congo, le gouvernement a officiellement annoncé ce mardi la fin des poursuites contre le pasteur Ntoumi, contre lequel le procureur de la République avait décerné un mandat d'arrêt. Devenu libre, le pasteur Ntoumi peut encourager ses miliciens à déposer les armes, nous dit de Brazzaville Arsène Séverin.
Le pasteur Ntoumi, poursuivi depuis 2016 pour acte de terrorisme, est désormais libre de ses mouvements. Le procureur de la République, dans un arrêt rendu le 27 juillet dernier, a mis fin à toutes les poursuites. Le porte-parole du pasteur Ntoumi, Philippe Anebibi, qui a assisté à la cérémonie annonçant cette mesure par le ministère de l'Intérieur, a indiqué que désormais, c'était l'heure de la paix, appelant les ex-ninjas à se rendre dans les centres de désarmement dans le pool pour déposer leurs armes.
En RDC voisine, une rencontre du mouvement Lutte pour le changement Lucha avec la presse a été interdite par la police ce mardi à Goma, dans l'est du pays. Un militant de la Lucha a lu dans la rue un communiqué qui dénonce les conclusions d'une enquête judiciaire sur la mort de Luc Kulula, 33 ans, mi-juin, dans l'incendie de sa maison.
VOA Afrique, en direct de Washington.
L'Iran a accueilli avec scepticisme l'offre de Donald Trump de rencontrer les dirigeants iraniens. Le vice-président du Parlement, Ali Mohtakhar, a affirmé que discuter avec le président américain serait une humiliation. Un conseiller du président, Hassan Rouhani, a lui assuré que toute discussion avec les États-Unis devait passer d'abord par le retour des États-Unis dans l'accord nucléaire de 2015. Plusieurs États américains et les partisans d'un meilleur contrôle des armes à feu tentent de bloquer la mise sur le marché de plans numériques permettant de fabriquer en toute discrétion des armes à l'aide d'imprimantes 3D. Fin juin, après une longue bataille judiciaire, le gouvernement fédéral a autorisé un groupe, Defense Distributed, à mettre en ligne des schémas numériques permettant de fabriquer une arme à partir d'une imprimante 3D. Ces armes ne seraient pas détectables. Un tribunal turc a refusé de lever l'assignation à résidence d'un pasteur américain accusé de terrorisme et d'espionnage dans une affaire qui a fortement tendu les relations entre Ankara et Washington. Et puis, les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête sur des entreprises locales soupçonnées d'avoir importé du charbon nord-coréen l'an dernier en violation des sanctions de l'ONU. L'enquête intervient après que le ministre de l'Unification a indiqué aux parlementaires la semaine dernière qu'un total de 9000 tonnes de charbon nord-coréen a été importé en Corée du Sud via la Russie à bord de deux cargos l'an dernier. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.